Il est 19h, vous écoutez France Inter. Le journal Frédéric Barrère.
Bonsoir à tous. Une fête sauvage dégénère à Joinville-le-Pont, une fête géante réunissant plus de 300 personnes au mépris des règles sanitaires. Les policiers ont été pris à partie par les convives, l'un des participants était positif au coronavirus. À Washington, une manifestation pro-Trump pour réclamer 4 ans de plus. Les partisans du président américain sortant dénoncent un vol électoral. Un feu vert à un premier vaccin anti-coronavirus à partir de janvier. Annonce de l'Agence européenne des médicaments aujourd'hui dans la presse italienne. Dans ce journal également, la polémique autour du chômage partiel dans la grande distribution. Les services secrets israéliens suspectés d'avoir assassiné en Iran le numéro 2 d'Al-Qaïda. Et puis nous avons rendez-vous comme tous les samedis soirs avec Christine Simeone pour Ma Vie Connectée. La météo agitée pour demain, de la pluie et du vent sur le nord-ouest. Ciel gris sur le reste du territoire. Jean-Michel Golinski à la fin de cette édition.
France Inter.
Les pro-Trump dans la rue aujourd'hui à Washington pour dénoncer un vol électoral selon eux. Les résultats de tous les États ont désormais été annoncés par les grandes chaînes de télé américaines. Joe Biden avec 306 grands électeurs contre 232 au président sortant remporte l'élection. Maladresse ou début de résignation, Donald Trump a semblé évoquer la possibilité d'une défaite avant de se reprendre. Finalement, Donald Trump est parti aujourd'hui jouer au golf. En direct de Washington, on retrouve Sébastien Paour. Bonsoir Sébastien.
Bonsoir.
Les pro-Trump manifestent en ce moment et ils manifestent en nombre.
Oui, il y a beaucoup de monde sur la Freedom Plaza qui est envahi de partisans du président sortant. Ici à deux pas de la Maison Blanche, très peu de masques, mais on retrouve sur les drapeaux, les chapeaux, les casquettes, les t-shirts, les badges, les pancartes. On retrouve tous les slogans qu'on a entendus pendant la campagne. 4 ans de plus. No more bullshit, fini les conneries, rendons sa grandeur à l'Amérique, ou encore des phrases comme les médias mentent, ou j'ai vu des morts voter, car la raison, vous l'avez dit, de la présence ici des électeurs de Trump, c'est la fraude qui entache, selon eux, l'élection d'il y a 10 jours, et ils veulent tous que la justice se saisisse de ce dossier. Certains citent l'avocat du président Rudy Giuliani, qui fera la preuve que l'élection a été truquée d'après eux. Et pour mieux faire pression sur l'équipe Biden, qui a déjà commencé à préparer la transition, et bien certains n'ont pas hésité à faire plusieurs centaines de kilomètres. On est venu du Texas, ici de Louisiane, de Floride, plus près du Delaware, l'État Joe Biden qui n'y a rien fait d'après un couple de retraités. Et on ne compte plus les bannières étoilées, les affiches Trump 2020 qui côtoient d'autres mots d'ordre plus radicaux, comme cette photo de Trump en Rambo, foulard, torse nu, fusil d'assaut, ou ce drapeau jaune sur fond noir, Dieu, les armes et Trump. On chante l'hymne américain, on crie USA, USA, mais la quarantaine de Proud Boys, vous savez, cette milice d'extrême droite que Trump avait citée lors du premier débat, reste calme néanmoins. Il y a bien des treillis, il y a des gros bras, il y a des gants un peu renforcés, de grosses chaussures de randonnée, mais pas d'armes visibles ici, c'est interdit dans la capitale fédérale. Rassemblement massif donc, mais dans le calme, des enfants en poussette, des personnes âgées en fauteuil, beaucoup de ceux qu'on interroge se projettent déjà dans une présidence Biden à partir du mois de janvier, mais ils espèrent aussi une candidature Trump dans 4 ans, en 2024.
Merci Sébastien Paour en direct de Washington. Et l'élection présidentielle américaine est à retrouver sur franceinter.fr et notamment un retour sur la présidence Trump en 20 photos marquantes sur franceinter.fr. En France, une méga fête avec des centaines de personnes, une fête clandestine qui dégénère à Joinville-le-Pont dans le Val-de-Marne la nuit dernière. La police a dû intervenir. En plein confinement, des centaines de convives étaient rassemblés dans un pavillon transformé en boîte de nuit, dans un mépris total des règles sanitaires. Bonsoir, Ariane Grissel.
Bonsoir.
Et les policiers qui ont été appelés ont été pris à partie. L'un des participants à cette fête clandestine était positif au coronavirus.
Oui, les policiers sont appelés vers 2h du matin pour tapage nocturne. Pas très difficile pour eux de repérer le pavillon d'où vient la musique. Il est transformé, effectivement, selon les témoignages, en véritable boîte de nuit. À l'intérieur, selon l'évaluation des policiers, autour de 400 convives. Ils ont répondu à une invitation lancée sur les réseaux sociaux. À l'arrivée des forces de l'ordre, plusieurs dizaines d'invités sont en train de se battre à coups de verre, de bouteilles, de chaises. Mais leur colère se tourne vite vers les policiers qui deviennent à leur tour cible des projectiles. Les forces de l'ordre utilisent des grenades de désencerclement, provoquent la fuite des fêtards par le toit, la porte d'entrée, les jardins. Certains, la démarche pas très assurée. Beaucoup d'alcool à cette soirée, selon une source policière. L'un des convives est retrouvé blessé un peu plus tard dans une rue adjacente. Il est pris en charge par les secours et c'est ça qui a permis de détecter qu'il était positif au coronavirus. La préfecture de police de Paris appelle donc ce soir tous les participants à cette soirée clandestine à se faire dépister et à se mettre en quarantaine en attendant les résultats de leurs tests. Pas d'interpellation pour le moment. Une enquête est ouverte, confiée à la Sûreté départementale du Val-de-Marne. Elle vise à identifier les organisateurs de cette soirée.
Ariane Grissel, merci. La préfecture de police interdit une manifestation pour la messe prévue demain devant l'église Saint-Sulpice à Paris. Gérald Darmanin a prévenu qu'il n'y aurait plus de week-end de mansuétude et que les manifestants seraient verbalisés. Le ministre de l'Intérieur recevra par ailleurs lundi les représentants des principaux cultes. Un homme interpellé après la mort de deux personnes à Cholet cet après-midi. Les deux personnes ont été rouées de coups, l'une dans la rue, l'autre dans le hall de l'immeuble. Une troisième personne a été hospitalisée en état d'urgence absolue. Le suspect a été arrêté. L'enquête a été confiée à la police judiciaire d'Angers. Une raison de plus d'espérer face à la progression de l'épidémie de coronavirus. L'Agence européenne des médicaments, l'EMA, envisage de donner son avis favorable à un premier vaccin contre la Covid-19 d'ici la fin de l'année. Le directeur de l'EMA, Guido Rasi, l'a affirmé cet après-midi à la presse italienne à Rome. Les précisions d'Olivier Tosseri.
Si les données sont solides, nous pourrons donner le feu vert au premier vaccin d'ici la fin de l'année. Commencer la distribution à partir de janvier, assure le patron de l'Agence européenne des médicaments. En mettant un vaccin sur le marché en janvier, ses premiers effets sur la propagation du virus seront visibles dans 5 à 6 mois, essentiellement l'été prochain, explique-t-il. Il est évident qu'il ne sera pas possible de vacciner tout le monde, souligne Guido Rasi, mais nous commencerons par les catégories les plus exposées, comme les personnes âgées, les travailleurs de la santé, ce qui commencera à bloquer les ponts de transmission. Le directeur de l'Agence européenne des médicaments juge qu'il faut vacciner plus de la moitié de la population européenne pour pouvoir assister à un déclin de la pandémie, ce qui nécessitera au moins 500 millions de doses en Europe. Pour vacciner tout le monde, cela prendra au moins un an, évalue Guido Rasi. Et si tout se passe bien à la fin de 2021, nous aurons une immunisation suffisante. C'est ce qu'espère le gouvernement italien qui rechigne à déclarer un confinement général dans le pays. Rome, Olivier Tosseri, France Inter.
Et avant l'arrivée d'un vaccin, il va falloir vivre avec le virus sur le temps long, prévient Jean Castex. Le Premier ministre travaille à des règles jusqu'à l'arrivée du vaccin. D'ici là, explique le Premier ministre, les rassemblements festifs, familiaux ne pourront pas reprendre avant longtemps, dit-il. Les bars et les restaurants ne pourront pas rouvrir dès le 1er décembre, contrairement aux magasins de jouets, affirme Jean Castex dans un entretien au journal Le Monde. La polémique autour du chômage partiel dans la grande distribution, syndicats et politiques enragent. Plusieurs enseignes, dont Auchan, Carrefour et Casino, ont désormais recours au dispositif de chômage partiel pour faire face à une perte d'activité avec la fermeture des rayons considérés comme non essentiels. Chez Carrefour, par exemple, 90 000 salariés sur les 110 000 employés seraient concernés par cette activité réduite. Jacques Cressel, délégué général de la Fédération des commerces et de la distribution, est interrogé par Hélène Philly.
Globalement, il y a une baisse de 20-25%, parfois beaucoup plus de l'activité, donc des répercussions qui sont automatiques sur l'emploi dans la mesure où un certain nombre de salariés qui travaillaient dans des rayons fermés aujourd'hui n'ont plus d'activité. Les clients ne venant plus faire des courses de produits non alimentaires, de jouets, de draps, de vêtements, n'achètent plus non plus de produits alimentaires dans ces magasins. On le voit par exemple dans tout ce qui est rayon traditionnel, les produits dits à la coupe, où il y a eu une baisse qui était entre 10 et 20% la semaine dernière. Par exemple, 20% de baisse dans les stands de fromage à la coupe. Ça, c'est vraiment une situation aussi qui est malheureusement le résultat direct des décisions prises par le gouvernement.
Jacques Cressel, délégué général de la Fédération du commerce et de la distribution. Une opération secrète dans l'ombre, comme l'a souvent pratiqué le Mossad, les services secrets israéliens. Le New York Times rapporte que le numéro 2 d'Al-Qaïda a été assassiné en Iran par des agents israéliens au mois d'août dernier. Abdullah Ahmed ou Abdullah figurait sur la liste des terroristes les plus recherchés, Loïc Loury.
Avec 10 millions de dollars de récompense pour toute information susceptible de mener à lui, Abdullah Ahmed Abdullah était l'un des terroristes les plus recherchés par le FBI. Selon le New York Times, il aurait été tué par balle dans les rues de Téhéran par deux assassins à moto. Des responsables des renseignements l'ont confirmé au journal. Une opération menée pour le compte de Washington par des agents israéliens qui ont ouvert le feu sur la voiture de la victime, tuant aussi sa fille, la veuve de l'un des fils d'Oussama Ben Laden. Toujours d'après cet article, les faits se seraient déroulés le 7 août dernier, un symbole, puisqu'il s'agit de la date des attentats perpétrés en Afrique de l'Est contre des ambassades américaines en 98, bilan de 124 morts. Mais plus sensible et surtout plus embarrassant pour Téhéran, Abdullah Ahmed Abdullah, impliqué dans ces attaques, se trouvait en Iran depuis 2003, selon le journal. Un cocktail géopolitique explosif et un assassinat que ni les Iraniens, Al-Qaïda, les Américains ou les Israéliens n'ont reconnu. New York, Loïc Loury, France Inter.
Et l'Iran affirme de son côté qu'il s'agit d'une information fabriquée et nie la présence du numéro 2 d'Al-Qaïda en Iran. Un mot de sport et de rugby, une première historique pour l'Argentine qui a battu les All Blacks. Première victoire pour les Pumas argentins en 30 confrontations face aux All Blacks. Et deuxième défaite d'affilée pour les Néo-Zélandais après leur échec face à l'Australie la semaine dernière. Cette musique est signée Clémence de Grandval, compositrice de nombreuses œuvres à la fin du 19e siècle. Bonsoir Christine Siméone.
Bonsoir Frédéric.
Alors quelques notes pour illustrer votre vie connectée cette semaine. Camille Saint-Saëns a dit des mélodies de Camille Grandval. Elles seraient certainement célèbres si leur auteur n'avait le tort irrémédiable auprès de bien des gens d'être femme. Aujourd'hui, c'est sur le site internet Demandez à Clara que vous avez retrouvé cette compositrice.
Quand vous allez au concert classique, Frédéric, ça vous semble évident d'entendre la musique de Saint-Saëns, de Mozart, Beethoven, Arvo Pärt ou Boulez. Mais les noms de Camille Pépin, Edith Cana de Chizy, Bien Vivante, ou de Clémence Grandval, par exemple, ou celle de Sophie Gale aussi, sonnent beaucoup plus rarement à vos oreilles. Le monde de la musique est en train de découvrir qu'une partie de son histoire a été passée sous silence, d'où la constitution de ce site Demandez à Clara.
C'est en référence à Clara Schumann, bien sûr, pianiste et compositrice, la seule qu'on connaisse vraiment.
Clara se veut un site de référence pour retrouver toutes les compositrices oubliées. Tout le monde peut y avoir accès. Et ce site est initié par l'association Présence Compositrice, présidée par Claire Baudin.
D'ailleurs, musique classique a deux présupposés en fait, qui sont toujours les mêmes. C'est elles n'existent pas ou alors elles sont en quantité très négligeable et leurs œuvres sont de qualité médiocre. Et ben nous on apporte avec Demandez à Clara la preuve du contraire. Elles existent et elles sont extrêmement nombreuses et leurs œuvres sont extrêmement nombreuses et parmi ces œuvres, je dis pas qu'elles sont toutes évidemment de valeur, mais il y en a vraiment suffisamment pour alimenter des saisons pendant des décennies.
Voilà de quoi alimenter des saisons entières pour les programmes d'orchestre, nous dit Claire Baudin. Exemple avec la chef d'orchestre, Déborah Wallman. Elle a fait jouer pour la première fois une symphonie de Charlotte Soy, après avoir retrouvé une partition du début du XXe siècle. Elle va programmer plusieurs œuvres de femmes au sein des programmes de l'orchestre régional d'Avignon-Provence. Par exemple, une sérénade de Sophie Gale, extraite d'un opéra comique tout à fait novateur en 1818.
En 1818, c'est une œuvre qui a été donc pendant 10 ans tête d'affiche à l'opéra comique. Et c'est une jeune femme qu'on veut marier de force, par convention, à quelqu'un, à un riche bourgeois. Et qu'elle, évidemment, elle est amoureuse de quelqu'un d'autre. Donc nous, là, en l'occurrence, on a joué l'ouverture. Mais ce qui était un peu étrange, c'est qu'il n'y avait aucune édition, en fait. Comme Sophie Gale, elle a beaucoup admiré Gluck, Mozart. C'est une pièce vraiment très pétillante et classique. Une petite ouverture pour introduire un concerto comme ça, c'est vraiment parfait.
Sophie Gale, vous la retrouvez bien sûr sur Demandez à Clara, le site que Déborah Wallman a aussi fait connaître jusqu'en Amérique latine à l'occasion de ses conférences. Car oui, dans le monde de la musique, on attend de mieux connaître toutes ces femmes.
Demandez à Clara et l'histoire de ce site internet pour faire renaître la musique oubliée des femmes. C'est à retrouver sur franceinter.fr. Le temps agité pour demain.
La
météo à toutes jambes avec Bleu Forêt, le fabricant français de collants élégants. Noir ou vert, prune ou rouge, de toutes les couleurs, fin ou opaque. Rendez-vous sur bleuforêt.fr.
Jean-Michel Golinski.
Au passage d'une perturbation très active demain sur une large moitié nord du pays, s'accompagnant d'un vent très turbulent et de pluie soutenue, l'ambiance sera agitée. La perturbation abordant la façade ouest de la Bretagne au Poitou-Charentes en cours de nuit va gagner vers le sud et l'est, atteignant en soirée l'Aquitaine, l'est du Massif central et la frontière allemande. Près de la Manche, en soirée, le vent va se renforcer avec des rafales à près de 120 km à l'heure sur les côtes, 80-100 dans l'intérieur, donnant une météo très agitée et parfois orageuse sur les départements côtiers, avec, compte tenu des forts coefficients de marée, un risque de submersion des littoraux à la pleine mer du soir. Dans la moitié sud et dans l'est, avant une dégradation plus franche dans la nuit de dimanche à lundi, le soleil va résister, sauf sur le Languedoc et le Roussillon, dans des températures qui, malgré un léger déclin dans la moitié nord, vont rester partout supérieures aux moyennes.
Jean-Michel Golinski de Météo France.